Comment réagissez-vous quand vous êtes dans une situation qui suscite en vous la culpabilité? On n'est pas tous égaux hein, face à la culpabilité. Peut-être vous avez vécu une situation avec votre conjoint, vos enfants, une parole malencontreuse est sortie, ou alors vous avez enfreint une loi de votre pays. Excès de vitesse. Je ne suis pas sûr que tout le monde culpabiliserait là. Hein. Ça dépend si on trouve la loi légitime ou pas, hein, généralement. Ou alors vous avez fait quelque chose que vous savez qui déplaît à Dieu. Une médisance sur un frère, une sœur. Comment réagissez-vous face à la culpabilité? Est-ce que vous êtes plutôt du style à rejeter la faute sur les autres? Vous reproduisez sans cesse Adam et Ève. Ce n'est pas moi, c'est lui, c'est elle. Vous êtes plutôt du style à vous rabaisser. À vous dire, non mais je suis nul, je ne suis pas capable. On pourrait paraître humble, mais ça veut aussi dire, ne me demandez pas d'assumer. Ou alors, et ça c'est une manière très à la mode, se rassurer. Une manière très en vogue actuellement, c'est de dire, le problème c'est pas moi, c'est le système. Il n'est pas adapté à ma sensibilité, à mes hautes capacités intellectuelles. C'est lui qui doit changer, pas moi. Il y a différentes manières de réagir face à la culpabilité. Et ce matin, on ne va pas traiter la question de la culpabilité dans son ensemble. Il y a probablement, dans ce que je viens de dire, des choses à considérer d'une manière différente que je les ai présentées. Mais si j'introduis notre message ce matin avec cette question de la culpabilité, c'est parce qu'elle joue un rôle central dans notre foi. La foi chrétienne démarre par un sentiment de culpabilité. La culpabilité est liée au fait de ne pas répondre aux exigences. Reste à savoir si ces exigences sont légitimes ou non. Mais elle est liée donc au fait de ne pas répondre aux exigences. Et il se trouve que Dieu a des exigences vis-à-vis de nous. C'est ce qui ressort des passages que nous allons lire ce matin. On pourrait titrer là, ce que nous allons méditer, lire « Le Dieu qui se fait connaître ». Par ses exigences. Comme l'a dit Fabrice tout à l'heure, si vous nous rejoignez, nous sommes actuellement dans une série dans le livre de l'Exode où nous apprenons à connaître le Dieu qui veut demeurer avec nous. Et nous venons de parcourir avec le peuple de Dieu quelques-uns des événements les plus extraordinaires de l'humanité. La sortie d'Égypte, la traversée de la mer Rouge, le don de la manne. Et Dieu a agi à travers les circonstances de son peuple pour révéler qui il est, sa puissance, sa bonté, sa patience. Pour habiter au milieu de son peuple, Dieu agit en sa faveur. Ça, c'est la première partie de l'Exode. Et je crois que c'est ce qu'on attend généralement de la part de Dieu, hein. Qu'il change nos circonstances, qu'il nous démontre sa bonté, son amour envers nous. Et je crois profondément que Dieu agit ainsi dans la vie de chacun. Je ne sais pas si ce matin, vous êtes convaincus de voir Dieu à l'œuvre. Il ne fait peut-être pas ce que vous attendez des circonstances, mais il agit dans les circonstances de vos vies. Mais que ce soit pour le peuple juif en exode hors d'Égypte, ou pour le chrétien français au XXIe siècle, on a besoin d'une deuxième partie. On a besoin de la suite dans le livre de l'Exode. Parce que nos problèmes ne résident pas tant dans le fait que c'est les autres, ce sont les circonstances. Il y a quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre dont nous avons besoin d'être délivrés. Et ce quelque chose d'autre, ce quelqu'un d'autre, c'est nous-mêmes. Écoutons comment la parole de Dieu pointe cela en Exode 19 et 20. Alors on va lire plusieurs extraits, on en a déjà eu un tout à l'heure dans notre temps de louange, et donc je ne relirai pas les passages qui ont déjà été lus, peut-être si ce n'est un verset pour se remémorer cette montagne fumante qui parle. Le troisième mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert du Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Et vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » Un peu plus loin, verset 10, « L'Éternel dit à Moïse, « Va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le troisième jour, car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple, sur le mont Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout autour et tu diras « Gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. » Et je lis à partir du verset 16 que nous avons déjà lu. « Le troisième jour au matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement. Et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. L'Éternel descendit sur le mont Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne, et Moïse monta. L'Éternel dit à Moïse, « Descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel, pour regarder, de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. » Moïse dit à l'Éternel, « Le peuple ne pourra pas monter sur le mont Sinaï, car tu nous en as fait la défense expresse en disant « Fixe des limites autour de la montagne et sanctifie-la. » L'Éternel lui dit « Va, descends, tu monteras ensuite avec Aaron, mais que les sacrificateurs et le peuple ne se précipitent point pour monter vers l'Éternel, de peur qu'il ne les frappe de mort. » Jusque-là, une première lecture. On l'a déjà médité dans notre première partie, mais quelle scène extraordinaire que cette montagne qui nous confronte à la sainteté de Dieu. Et vous l'avez compris, ça a été déjà souligné, le but n'était pas de faire un spectacle pyrotechnique pour attirer l'attention du peuple. Dieu donne des instructions très précises. Il établit des limites autour de cette montagne qui font office de barrière de sécurité. Et il les répète à plusieurs reprises. Ces limites sont à ce point essentielles qu'il fait monter Moïse vers lui pour lui redire ce qu'il a déjà dit et qu'il redescende immédiatement redire cela au peuple. Alors pour nous, ça prend un verset. Mais en fait, pour Moïse, ça a été beaucoup plus coûteux que ça. Le mont Sinaï culmine à 2285 mètres. Le camp des Israélites, lui, il devait probablement se situer à 1500 mètres d'altitude. Ça veut dire que Moïse a donc dû gravir 800 mètres de marche, de randonnée. C'est pas un GR, hein. C'est le mont Sinaï. Moïse a 80 ans quand il doit faire cette randonnée. Tout ça pour aller entendre de l'Éternel ce qu'il savait déjà, fixe des limites autour de la montagne. Pas la peine, Seigneur, ils savent déjà. Tu redescends. Donner les limites au peuple. Deux jours, trois jours de marche peut-être, tout cela pour s'assurer que le peuple ne franchira pas les limites. Ça fait cher le déplacement quand même, hein. D'ailleurs, Moïse va être dans un constant va-et-vient tout au long de cette partie du livre. On note qu'il fait au moins 7 ou 8 allers-retours vers le sommet de la montagne, à chaque fois comme ce médiateur entre Dieu et le peuple, un médiateur bien imparfait qui doit faire des va-et-vient entre les deux parties pour justement établir ce qu'il doit les unir. Alors pourquoi était-ce si important de ne pas s'approcher de cette montagne? C'est la première fois de l'histoire où Dieu réunit donc son peuple pour lui parler. C'est le premier culte et c'est Dieu qui prêche. Les Israélites vont entendre Dieu parler comme, il n'y a pas de comparaison, hein, vous m'entendez parler ce matin. Avec un peu plus de tonnerre et de brouhaha, a priori. Dans son commentaire sur l'Exode, que certains suivent, Tim Chester compare cette scène à celle d'un réacteur nucléaire. Pour vous approcher d'un réacteur nucléaire, vous avez besoin de vous habiller de certains vêtements. Mais même avec ces vêtements de protection, il ne va pas falloir aller trop près. Et d'ailleurs, le réacteur a été coulé, généralement, enfin, imbriqué dans un mur de béton pour que les vêtements aient un quelconque effet. Il en est de même avec Dieu. Ceux qui veulent s'approcher de lui doivent s'y préparer. Et on a entendu tout à l'heure ce que le peuple devait faire pendant ces 3 jours avant cette rencontre. Mais même en faisant cela, il doit rester à distance de la montagne. On aurait pu penser que l'expérience de Dieu qui parle à travers la montagne soit enthousiasmante. Il semble qu'elle a été effroyable. Quand Dieu s'adresse à son peuple au Sinaï, c'est pas Tchernobyl, mais pas loin. Pour les plus jeunes, c'est une référence un peu has-been, vous demanderez à vos parents en rentrant, je suis sûr qu'ils sauront vous en parler. Quand Dieu s'adresse à son peuple, le peuple est effrayé. Après que Dieu ait prononcé seulement 10 paroles, et on va revenir sur ces 10 paroles dans quelques instants, le peuple se tourne vers Moïse et lui dit « Parle-nous toi-même, et nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas directement. » Sinon, nous mourrons. Moïse, vas-y, toi. Va recevoir les paroles de Dieu. Nous, on préfère que ce soit toi qui nous dise les consignes. Le peuple est trop effrayé quand c'est Dieu qui parle. Qu'est-ce qu'il nous faut comprendre de tout cela? Dieu n'a pas simplement sauvé son peuple de l'esclavage en Égypte, de la mort devant la mer Rouge. Il les a sauvés en vue de quelque chose. Il veut être en relation avec son peuple. Il veut habiter au milieu de lui. Hein, vous vous rappelez, c'est ce que nous méditons à travers tout ce livre de l'Exode. Mais Dieu est un être saint. Et ça n'est pas sans danger pour son peuple. En fait, Dieu peut s'avérer bien plus dangereux que Pharaon, la mer Rouge, et le désert réuni. Et en quelque sorte, Dieu dit au mont Sinaï, ce que vous m'avez vu accomplir en Égypte pourrait très bien vous arriver aussi. C'est ce que Moïse souligne. Si Dieu s'est approché de vous, c'est pour vous mettre à l'épreuve. Il veut que vous reconnaissiez son autorité et que vous ne commettiez pas de péché. Quel contraste quand même avec cette tranquillité avec laquelle nous venons à nos cultes le dimanche matin. On se sent quand même assez loin de cette montagne qui insécurise. Hein. Mais pourtant, cette scène unique dans l'histoire de l'humanité devrait nous poser quelques questions. Elles nous ont déjà été posées tout à l'heure au début du culte, mais comme vous n'étiez pas bien réveillés, je propose de les réitérer. Dans quel état d'esprit vous êtes venu ce matin? Un peu râleur? Oui, on a profité du samedi soir, on s'est couché tard. Quand même, qui a eu l'idée de placer le culte à 10h du matin? On pourrait faire ça plus tranquillement, non? Rappelez-vous de Moïse qui, lui, a dû faire des allers-retours express de 1600 mètres de dénivelé pour préparer le culte pour l'assemblée. Ou alors vous êtes un peu agacé, ça concerne ceux qui sont de service généralement le dimanche matin. Comme moi, je me prêche à moi-même. Hein. Est-ce qu'on voit ça comme une charge dans notre agenda? Un service, une activité de plus à assumer? Est-ce qu'on aurait besoin de retrouver cette solennalité des prêtres qui doivent eux aussi se tenir à l'écart? Ou alors, est-ce que justement on est un peu blasé? On vient à l'église parce qu'il le faut, parce qu'un chrétien le fait. Et puis on se prépare surtout à vivre la suite de notre dimanche. Quel contraste avec le premier rassemblement du peuple de Dieu en Exode 19, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé entre la montagne fumante et bienvenue à l'église de Farmoutier en ce dimanche 27 octobre 2024. Alors on l'a déjà vu, on l'a déjà médité à travers la Sainte Cène, mais avant d'aller trop vite, je vous propose qu'on prenne juste une pause, un temps, pour prier par rapport à la manière dont on se prépare à vivre nos cultes, dont on se prépare à cette rencontre avec Dieu. Frère, tu veux bien prier pour nous?
Mais Seigneur, tu es un grand Dieu. Merci pour le texte de ce matin qui nous le rappelle et combien nous sommes petits devant toi. Et pourtant, tu nous aimes comme un Père aimant et comme ce grand Dieu que tu es. Montre-nous chaque jour un peu plus quel grand Dieu tu es et comment nous sommes. Merci pour cet amour pour nous. Merci parce que nous pouvons venir devant toi librement, parce que nous pouvons vivre pour toi. Merci pour ton Fils Jésus, son sacrifice à la croix, ce sacrifice ultime, cet amour ultime manifesté en Jésus-Christ. Merci pour ton Saint-Esprit, merci parce qu'il nous transforme jour après jour. Merci parce qu'il nous permet aussi de vivre cette vie pour toi pleinement. Et tu veux faire ton œuvre de transformation encore chaque jour à travers ton Esprit. Que cela puisse toujours plus nous rapprocher de toi. Rentrons-nous.
Amen. La prédication n'est pas finie. Hein. J'espère que vous n'êtes pas réjouis trop vite en disant « Cool, c'était plus court ce matin. » Il y a encore deux parties qui viennent. Une montagne pour nous révéler les exigences de Dieu. C'est le deuxième point. Après avoir été le libérateur, le protecteur de son peuple, Dieu va révéler ses exigences. Parce que pour que Dieu soit au milieu de son peuple, il faut qu'il y ait alliance entre les deux parties. Mais quand même, repérons bien dans quel ordre cela s'est passé. Israël a d'abord été au bénéfice de la grâce de Dieu. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Seulement ensuite viennent les exigences. Contrairement à l'idée reçue, il n'y a pas d'un côté le Dieu exigeant, la loi, la sainteté dans l'Ancien Testament, et puis dans le Nouveau, l'amour, le pardon, la grâce. Le même Dieu était à l'initiative tout au long du salut. Il a agi en faveur de son peuple en le libérant d'Égypte. Seulement ensuite, il lui exprime les exigences pour lui demander de s'engager en retour. Et c'est donc dans cette perspective, avec cet arrière-plan qu'il nous faut lire les 10 paroles, d'ailleurs Dieu le précise à nouveau, avant ce que nous appelons donc les 10 commandements. Et je vous propose de lire maintenant Exode 20. Alors on ne va pas lire les versets 1 à 17, mais juste rappeler justement ces 10 commandements en prenant chaque fois le début des versets quand il est plus long. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Et vient maintenant les clauses de l'Alliance. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Alors ce matin, on ne va pas détailler chacune des 10 paroles. Ça, c'est ce qu'on fait dans le programme des groupes de maison qui a donc lieu en parallèle tout au long de l'année. Mais j'aimerais faire 3 remarques qui peuvent, j'espère, éclairer la bonne compréhension de ces 10 paroles. Première remarque. On a affaire ici à une avancée considérable dans le plan de salut que Dieu révèle depuis le début de la Genèse, notamment du point de vue du bien et du mal. Si vous suivez le fil conducteur, sans refaire toute l'histoire, après la création bonne et parfaite, l'homme, à travers Adam et Ève, s'est donc libéré, quelque part, s'est donc affranchi de Dieu en voulant décider par lui-même ce qui est bien et ce qui est mal. Et la Bible nous rapporte assez brièvement, mais le chaos qui a régné pendant les premiers millénaires où l'homme était en quelque sorte ignorant de ce bien et de ce mal puisqu'il le définissait par lui-même. Et c'est ce qui a conduit jusqu'au déluge. Face à ce chaos, Dieu n'est pas resté inactif. Il a entamé une opération reconquête avec Abraham, avec la famille d'Abraham, et qui nous a amené jusqu'à Moïse et la situation du peuple hébreu, les descendants d'Abraham, en Égypte. Et au mont Sinaï, nous voici en quelque sorte revenus à la case départ. À une humanité incapable de différencier sa gauche de sa droite, Dieu révèle la loi, révèle ce qui est bien, ce qui est mal, cette fois-ci, selon lui. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que Dieu dit « voici ce qui est bien et voici ce qui est mal », plus selon les opinions humaines, mais selon la parole de Dieu. Alors peut-être ce matin, certains luttent avec l'idée d'un Dieu qui est justement se révèle, nous parle. Peut-être vous aimeriez des preuves de son existence. Bien là, j'ai l'impression qu'on en a une en fait. On n'a peut-être pas vécu la sortie d'Égypte, la traversée de la mer Rouge, le don de la manne, mais nous avons vécu plusieurs millénaires d'une humanité dont le socle est ces paroles que nous venons d'entendre, qui incitent les sociétés, justement, à aller vers le bien et se séparer du mal. Quel que soit l'état de nos sociétés aujourd'hui, on voit ce désir, justement, de se tourner vers le bien, tel que ces 10 paroles le prononcent, et à limiter l'impact du mal, ce qui est le rôle de la loi. Une avancée donc considérable en ce qui concerne le bien et le mal. Deuxième remarque, des exigences plus exigeantes qu'il n'y paraît. À première lecture, 3000 ans plus tard, ces lois pourraient paraître atteignables finalement. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. Ma grand-mère à qui j'essayais d'expliquer justement en quoi elle avait besoin d'un sauveur, d'être pardonnée de Dieu, eut un jour cette réponse « J'ai pas tué, j'ai pas volé, j'ai pas trompé mon conjoint. Il n'y a pas de raison que Dieu soit en colère contre moi. » Et oui, 3000 ans de... 2000 ans plutôt de société chrétienne et de loi de Dieu insérée dans nos sociétés pourrait nous donner l'impression que finalement n'est pas si mauvais que ça. Et beaucoup de nos contemporains en arrivent d'une manière ou d'une autre à cette conclusion. Au jour de la grande rencontre avec Dieu, ils ne sont pas en train de se demander s'ils auront des comptes à rendre à Dieu. Ils pensent plutôt que c'est eux qui vont demander à Dieu des comptes sur sa gestion du monde. Alors les 10 commandements, aussi easy que cela? On a tendance à classer ces commandements en 2 listés. Ça m'est déjà arrivé de l'enseigner tel quel dans l'Église, hein, donc je ne dis pas que c'est quelque chose de mauvais. La liste de gauche semble plutôt concerner nos relations avec Dieu, celle de droite avec notre prochain. Et oui, il y a bien ces 2 dimensions dans les commandements, une relation verticale, une relation horizontale. Mais la conséquence néfaste de cela, c'est justement ce trait vertical qui se dessine sous vos yeux. Séparer les 2 listes. Et nous intéresser plutôt à celle de droite. Oui, c'est vrai que ce serait chouette d'avoir des relations plus sympas entre nous. Et finalement, bah, celle de gauche, elle concerne que les croyants. On peut très bien vivre tout ça sans Dieu. Et nous redevenons en quelque sorte notre propre norme. Nous redéfinissons ce que cela veut dire que voler, que mentir, que convoiter. Exode 19 à 20 ne laisse aucune place à cette lecture. Les commandements ne sont pas là pour mieux vivre en société. Vous vous rappelez ? Ils sont une alliance entre un Dieu saint et un peuple qui ne l'est pas du tout. Une alliance pour limiter les effets du péché au sein d'un peuple pécheur qui se débat avec ce péché sans bien toujours comprendre où il se situe. Mieux vivre en société ne sera qu'une conséquence de tout cela. Il nous faut d'abord que notre amour pour Dieu soit bien en place pour que nous puissions réellement envisager d'aimer notre prochain. Le premier commandement, les 3 premiers commandements, les 4 premiers commandements ne sont pas séparés des autres. Ce sont eux qui fondent tout le reste. Troisième remarque. Si le premier commandement est donc le socle sur lequel reposent tous les autres, le dernier, lui, nous met sur une piste. On peut empêcher par la force de tuer, de voler, de mentir. On peut, par l'éducation, obtenir une civilisation qui va tendre par pour ne pas mentir, voler, tromper son conjoint. Par contre, interdire aux gens d'envisager ces actes, vous ne pouvez pas par des lois. Or, c'est exactement de ça dont parle le 10e commandement, la convoitise. D'ailleurs, il dit, tu ne convoiteras pas ni les biens, ni la femme, on pourrait rajouter ni la vie de ton prochain. Il est lié aux autres, mais d'une autre manière. En touchant le problème central, celui du cœur. Cette 10e parole donne une esquisse du véritable problème que Jésus révélera totalement. Vous vous rappelez ? Vous avez entendu ? Tu ne tueras point. Moi je vous dis, celui qui se met en colère a déjà commis un meurtre. Vous avez entendu, tu ne commettras pas d'adultère. Moi, je vous dis, celui qui convoite déjà dans son cœur la femme de son prochain a déjà commis un adultère. Voilà la véritable origine du péché qui empêche la présence de Dieu dans ma vie. Le péché prend sa source dans le désir de ne pas se satisfaire seulement de Dieu, premier commandement, pour convoiter, désirer ce que je n'ai pas. 10e commandement. Et en fait, c'est ce désir dans notre cœur qui légitime en quelque sorte notre infraction à la loi de Dieu. Je mens, ça c'est le péché, pour obtenir l'admiration, le respect des autres. Ça c'est mon idole. Je me sers des autres, ça c'est mon péché, pour obtenir une position plus en vue. Ça, c'est mon idole. Et on voit en quoi la loi ne peut pas nous rendre meilleurs. Elle ne peut que faire une analyse de la situation, nous montrer ce qui ne va pas. Paul aura même l'audace de dire dans l'Épître aux Romains que, bien au contraire, la loi a attisé le péché dans notre cœur en nous révélant ce qui est bien et ce qui est mal. Car nous sommes incapables de faire le bien, même si nous le connaissons. La loi n'est donc pas la solution, et il nous faut donc chercher à une autre montagne que celle du Sinaï, cette solution. Une montagne qui pointe vers une autre. Car c'est finalement 1500 ans plus tard que les paroles prononcées par Dieu au mont Sinaï vont prendre leur portée définitive. Cette fois-ci, plus sous la forme d'une montagne qui parle aux hommes, mais d'un homme qui parle sur la montagne. C'est bien sûr Jésus dont il est question, et de son fameux sermon sur la montagne, dans lequel il prononce ces paroles. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis, en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. » La loi n'est pas abolie aujourd'hui. Elle est accomplie en Jésus. La loi est bonne. Elle est conforme à la volonté de Dieu. Et on l'a dit à plusieurs reprises, Dieu n'a pas changé. En ce sens, il n'est pas question de supprimer l'un de ses plus petits commandements. Mais 1500 ans d'histoire mouvementée du peuple d'Israël ont aussi démontré que cette loi était incapable d'amener l'homme à une plus grande obéissance, incapable de changer nos cœurs. C'est pourquoi Jésus est venu et il a accompli la loi à notre place. Il n'a failli à aucun des commandements. Et non seulement il a accompli cette loi à notre place, mais il a mis aussi cet accomplissement à notre bénéfice, à notre crédit. C'est comme si chacun d'entre nous, en plaçant notre confiance en Jésus, nous étions trouvés comme satisfaisants pleinement à chacun des moindres commandements. Parce que Dieu décide de voir non pas nos échecs, mais la réussite de Jésus quand il nous regarde. Voilà pourquoi nous ne sommes plus effrayés, nous ne sommes plus culpabilisés quand nous entendons la parole de Dieu. Ce n'est pas que Dieu soit moins saint, ce n'est pas qu'il soit moins enclin, qu'il soit plus enclin à tolérer notre péché, ou que ses exigences soient rabaissées, mais en Jésus-Christ, il n'y a plus aucune condamnation, comme le dit Paul aux Romains. Nous sommes libérés du fardeau de la loi et de la culpabilité qu'elle entraîne, pour nous attacher uniquement aujourd'hui aux principes qui sont dans cette loi. Peut-être cette autre illustration, toujours chez Tim Chester, peut nous aider à mieux saisir cela. Quand nous étions enfants, nos parents nous ont donné tout un tas de lois. Ne traverse pas la rue tout seul. Demande avant de sortir de table. Et une fois devenus adultes, nous ne sommes plus soumis à ces règles. On peut traverser la route sans attendre la main des parents. Enfin, j'espère. On peut sortir de table sans demander l'autorisation. C'est pas que ces lois étaient mauvaises, c'est qu'elles étaient adaptées à un certain âge. Mais aujourd'hui, elles sont en quelque sorte obsolètes. Pas qu'elles soient abolies, mais parce que nous nous sommes approprié leurs principes. Nous traversons seuls car nous gérons nous-mêmes notre propre sécurité. Nous sortons de table sans autorisation parce que nous discernons par nous-mêmes quel est le bon moment pour le faire. Par nous-mêmes, ou plutôt à cause des principes, justement, que nous avons appris tout au long de ces lois qui nous ont été données. Et bien de même, la loi de Moïse n'est plus nécessaire, non pas parce qu'elle n'est pas bonne, mais parce que désormais, dans la Nouvelle Alliance, l'Esprit habite en nous. et nous nous approprions la volonté de Dieu. Notre loi, ce n'est plus une loi gravée sur la pierre du mont Sinaï, c'est Christ qui est gravé dans nos cœurs. Et parce que Christ vit en nous, nous sommes désormais capables d'obéir à la volonté de Dieu, alors que c'était tout simplement impossible tant que cette loi était extérieure à nous. La loi n'est donc pas abolie. Au contraire, désormais, elle peut pleinement accomplir son rôle. Et parce qu'elle est accomplie, pour revenir à mon point de départ, nous sommes totalement libérés du problème de la culpabilité. En effet, là où la pensée moderne nous mène sur des fausses solutions pour survivre à cette culpabilité, et j'en ai donné quelques-unes tout à l'heure, l'estime de soi, rejeter la faute. En accomplissant la loi, Jésus, lui, nous sauve de cette culpabilité. Cette loi, elle est tout d'abord salutaire, parce qu'avant de la rejeter, il faut nous mettre à son écoute. En l'écoutant, elle dirige notre regard vers notre besoin d'un sauveur. Car tout comme les Israélites, je suis incapable d'accomplir cette loi par moi-même. Mais alors que je suis pris en défaut par cette loi, que la culpabilité pourrait m'écraser et m'étouffer, je peux me consoler. Alors que moi, je suis incapable d'accomplir cette loi, Dieu l'a fait à ma place. Et puisque désormais je ne suis plus sous cette loi, je peux en observer ces principes comme étant en retrait de cette loi. Non plus sous le fardeau, vous vous rappelez tout à l'heure, de cette personne écrasée. Par elle, je vais désormais pouvoir discerner les véritables exigences de Dieu. Les seules que je devrais imposer à ma vie. Je vais pouvoir me laisser reprendre là où c'est nécessaire, mais je vais pouvoir aussi apprendre à rejeter ce qui n'est pas exigence de Dieu sur ma vie et qui me culpabilise faussement. Pour finir, laissons les derniers mots à l'apôtre Paul qui résume en un verset ce que nous disons là. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons désormais toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Si vous cherchez à vous libérer de la culpabilité qui pèse sur votre vie, l'idée n'est pas de uniquement la rejeter, mais de la scanner en Christ. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Christ. Et oui, il y a une bonne culpabilité qui pointe sur Jésus-Christ. Mais nous amenons aussi toute pensée, celle justement qui n'ont pas à voir avec ce que Christ nous demande, toute pensée captive à l'obéissance de notre Seigneur.